Le journal Loïc Barrière. À l'occasion du 75e anniversaire de la Nakba, commémoré pour la première fois par l'ONU, Mahmoud Abbas a demandé que la Palestine obtienne le statut de membre à part entière des Nations Unies. En Tunisie, l'opposant Rached Ranouchi a été condamné à 1 an de prison pour apologie du terrorisme. En France, les juges d'instruction ont ordonné le renvoi devant des tribunaux de 14 personnes pour leur rôle dans l'assassinat de Samuel Paty en octobre 2020. La journée internationale du vivre ensemble en paix, interview dans ce journal d'Abdelhak Sali, président des scouts musulmans de France. Enfin, le baromètre annuel de SOS Amitié, parmi les personnes en détresse psychologique, de plus en plus de jeunes de moins de 14 ans. Entretien avec Laurent Leboterve, président de SOS Amitié à Paris et en Île-de-France. C'était ce lundi, pour la première fois, l'ONU a commémoré la Nakba palestinienne. La Nakba est associée par les Palestiniens à la création de l'État d'Israël en 1948. Lors de cette première guerre israélo-arabe, 760 000 Palestiniens avaient été contraints à l'exode. À l'occasion de ce 75e anniversaire, le président Mahmoud Abbas a rappelé aux représentants des Nations Unies que son peuple avait le droit de vivre dans la liberté et la dignité au sein de sa propre nation indépendante. Mahmoud Abbas a également demandé l'obtention pour la Palestine du statut de membre à part entière de l'ONU. Pour l'instant, elle ne bénéficie que du statut d'État observateur non membre. En Tunisie, Rached Ranouchi a été condamné à 1 an de prison et 1000 dinars d'amende pour apologie du terrorisme. Le chef des Nada a été arrêté le 17 avril dans le cadre d'une autre affaire. Depuis début février, les autorités tunisiennes ont incarcéré plus de 20 opposants et personnalités, parmi lesquels plusieurs anciens ministres et des hommes d'affaires. 14 personnes seront jugées dans le cadre d'un procès lié à l'attaque terroriste qui a tué Samuel Paty. Parmi les charges retenues contre ces 8 majeurs et 6 adolescents, complicité d'assassinat terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels, le professeur d'histoire-géographie avait été décapité par un terroriste islamiste qui lui reprochait d'avoir montré dans sa classe une caricature de Mahomet. Son assassin avait été tué par la police, un attentat commis le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine. Le 16 mai est la journée internationale du vivre ensemble en paix. Le 8 décembre 2017, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution proclamant cette journée. Elle est célébrée par de nombreuses organisations et associations, parmi lesquelles les scouts musulmans de France. On écoute son président Abdelhak Sali.
Cette journée internationale du vivre ensemble en paix est pour moi et pour tout le mouvement des musulmans de France d'une importance capitale. On voit que la paix, tout le monde la désire, tout le monde la souhaite, tout le monde la veut. Mais comment y arriver? Donc aujourd'hui, on va prendre cette journée internationale comme un outil, en fait, un outil de pouvoir créer des projets, pour pouvoir créer des rencontres, pour pouvoir tout ce genre de choses autour de la paix. Voilà cette importance de la journée internationale pour moi. Ça reste un outil qui va nous permettre justement d'avancer vers la paix. Il faut rappeler comment cette journée a été adoptée, parce que il faut savoir que les journées internationales sont adoptées par les Nations Unies. Et vous avez différentes sortes d'adoption d'une résolution. Donc elle a été adoptée par résolution, ça n'a pas été un vote, mais une adoption par résolution. Ça veut dire que les 193 États membres de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 8 décembre 2017, ont, à travers cette résolution de tête, c'est AREs 7230, je crois, adopté cette résolution qui fait que le 16 mai de chaque année est la journée internationale du vivre ensemble en paix. Ça veut dire que les moyens, c'est également d'aller voir les États et de leur dire comment on fait pour mettre en œuvre justement cette journée internationale, comment on construit autour de cette journée internationale. Ça, c'est l'aspect avec les gouvernements. Maintenant, c'est aussi, il y a le rôle du citoyen. Comment le citoyen lambda s'engage autour de ce vivre ensemble en paix, donc par la création d'actions, d'activités, de rencontres, etc. J'ai oublié de préciser que pour nous, elle est très importante parce que, en fait, l'initiateur de cette journée internationale du vivre ensemble en paix n'est autre que le cher Bentounes, qui est fondateur des Scouts musulmans de France. Donc pour nous, c'est cette double importance, donc elle est ici, si vous voulez, de nous. Elle a été portée par l'ONG AISA, effectivement, mais elle est partie prenante de la pédagogie, en tout cas du souhait que les Scouts musulmans de France font pour accompagner la jeunesse justement à devenir des citoyens à part entière et pas des citoyens à part. Donc pour construire cette paix, le scoutisme, c'est avant tout construire un monde meilleur. Et nous, notre but ou notre rôle, c'est construire ce monde meilleur par la paix.
Vous avez d'ailleurs célébré cette journée dimanche dernier avec plusieurs activités.
Tout à fait. On crée des partenariats avec des associations, des collectifs. Et dimanche, on a célébré cette journée par... On a d'abord marché. Marché parce que la marche permet la rencontre, l'échange. Donc on a marché avec la SIMPA. La SIMPA, c'est la coordination interconvictionnelle du Grand Paris. En partenariat avec eux, avec AISA, on a célébré cette journée par la marche et on s'est retrouvés tous à la Cité Fertile à Paris, d'ailleurs, qu'on remercie énormément pour ce lieu magique, quelque part, qui permet cette rencontre. Toutes les associations présentes ont pu présenter leur action et on se rend compte qu'en fait, on a énormément de gens qui œuvrent pour la paix. Donc ça permet quelque part de mettre en avant, ou en tout cas en lumière, tout le travail qui est fait autour de la paix.
Et c'est un travail qui est suffisamment mis en lumière aujourd'hui, selon vous ?
En fait, il y a énormément d'actions. Si je pouvais donner un site, ce serait celui du 16 mai, par exemple, pour cette journée, 16mai.org, donc 16mai, comme la date, .org. Et là, on se rendrait compte, en fait, qu'il y a énormément de pays qui célèbrent cette journée aujourd'hui. C'est la 6e édition, et on se rend compte qu'il y a énormément d'associations, de pays qui célèbrent cette journée. D'ailleurs, vous pourrez voir sur ce site, puis 16mai.org, l'agenda où vous verrez hein, toutes les actions, toutes les activités qui se font à travers cette journée. Notamment, il y a une rencontre qui va se faire à Turin autour de la médiation. Donc, c'est les présidents de médiation de plusieurs pays d'Europe qui se rencontrent à Turin justement pour mettre en avant le rôle de la médiation dans le vivre ensemble en paix. Donc, c'est comment chacun, à son niveau, peut œuvrer justement dans la construction de ce vivre ensemble en paix.
Il s'agit d'éduquer à la culture de paix, c'est important.
Tout à fait. Pour nous, dans le scoutisme, l'éducation est la première des choses qu'on met en avant, en tout cas le but, c'est comment on éduque le jeune. Donc, si je pouvais reprendre les propos du cher Bentounes, c'est construire en fait une culture qui encourage l'engagement du citoyen et sa participation active à vivre ensemble en paix dans les sociétés plus pacifiques et plus justes. C'est ça la culture de paix. C'est comment ce jeune, dans le scoutisme, devient citoyen et s'engage et participe activement en fait à la construction de ce vivre ensemble en paix, là où il réside, avec son entourage, avec son environnement, parce que c'est important, et aussi avec soi-même. Donc avec lui-même, être en paix avec lui-même, être en paix avec les autres, être en paix dans son environnement, et avec l'environnement plus globalement, l'écologie, la nature, etc., qui nous nourrit et qui nous soutient en fait.
La paix qui s'apprend d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Comme disait Thomas Asenbourg, disait la paix ça s'apprend. C'est comme le foot ou les mathématiques, ça s'apprend, tout s'apprend en fait. Et cette éducation à la culture de paix doit s'apprendre dès le plus jeune âge. Et c'est pour ça que avec les partenaires comme AISA ONG, mais d'autres, il y a la création d'écoles de paix à travers le monde. Il y en a une aux Pays-Bas, il y en a plusieurs en Algérie, il y en a une au Maroc, il y en a... Enfin, elles émergent petit à petit, ces écoles de paix, et c'est dès 4 ou 5 ans qu'on apprend, en fait, aux jeunes que la paix permet, justement, de vivre ensemble et se soutenir les uns les autres. Ne plus voir l'autre comme un ennemi, mais comme un partenaire. Comment il peut être un partenaire pour nous accompagner, pour nous aider dans la création d'un projet de vie, d'un projet après dans l'avenir professionnel, etc. Mais ça s'apprend dès le plus jeune âge.
Le président des Scouts musulmans de France, Abdelhak Sali, au micro de François-Xavier de Calonne. Près d'un Français sur trois en hypertension, dont la moitié qui l'ignore, c'est ce qu'annonçait Santé publique France. 17 millions de personnes sont concernées par cette maladie responsable de maladies cardiovasculaires. Un petit-neveu de Brigitte Macron a été agressé hier à Amiens après l'interview d'Emmanuel Macron. L'agression a eu lieu en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites. 8 personnes ont été interpellées. La détresse psychologique des adolescents en France, l'association SOS Amitié fait état d'une hausse des appels de jeunes gens âgés de moins de 14 ans. C'est ce que montrent les chiffres du dernier baromètre de l'association. Les explications de Laurent Leboterve, président de SOS Amitié à Paris et en Île-de-France.
Ce baromètre constate malheureusement un petit peu la même chose que l'année précédente, c'est-à-dire qu'on a toujours un peu plus d'appels et surtout dans cette hausse d'appels, les gens vont de plus en plus mal. Avant 2020, avant la crise du Covid, les appels mentionnaient surtout la solitude, l'isolement qui entraînait des problèmes psychiques et maintenant c'est le contraire, c'est plus sont plutôt les problèmes psychiques qui sont avancés avant la solitude et l'isolement avec en plus des effets cumulatifs, par exemple la précarité, les familles composées. Donc les gens sont plus nombreux à essayer de nous appeler et surtout vont de plus en plus mal. Et dans ce constat, et ça c'est vraiment alarmant, les écoutes laissaient supposer que c'était malheureusement toujours le cas, mais là on a les chiffres, on a aussi de plus en plus d'appels de jeunes. Alors avant on faisait une classification les moins de 25 ans, mais maintenant quand on parle d'appels de jeunes, c'est surtout 13-14 ans. Et depuis 2020, c'est une hausse de 40% à peu près. Ce qui est quand même très étonnant parce que ce sont des personnes qui sont très peu appétents à nous appeler au téléphone. Ils préfèrent le chat et le mail. D'ailleurs, pour ça qu'on avait ouvert une ligne spécialisée en chat et en messagerie il y a une quinzaine d'années. Et là, depuis la crise du Covid, ils sont aussi très nombreux à nous appeler au téléphone. Autre caractéristique, ces jeunes sont plus nombreux que les autres catégories d'âge à évoquer des idées suicidaires. Et ça aussi, c'est embêtant.
Vous faites un lien entre cette hausse d'appel de jeunes gens âgés de moins de 14 ans et la crise sanitaire et ses conséquences?
Pas que, puisque si ces appels sont venus avec la crise du Covid, ils ne sont pas redescendus avec la levée des restrictions. Et puis, dans les sujets qui sont abordés, on a beaucoup, par exemple, les relations avec les parents. Voilà, on a aussi des choses comme la crainte sur l'avenir, donc ça semble beaucoup plus global. On a aussi une hausse des évocations d'inceste, de violence, de relations interpersonnelles, de maltraitance, de harcèlement. Donc c'est quelque chose qui semble plus lié à l'état global de la société.
Lorsque ces jeunes gens appellent SOS Amitié, quel est le rôle des écoutants?
Alors le rôle, c'est de les écouter justement, et notamment dans les crises suicidaires, la première tendance dans la vie normale, c'est pas d'écouter, mais de les renvoyer à ce qu'ils devraient faire. Mais non, tu vas pas si mal que ça, t'es jeune, etc. Donc notre rôle, c'est vraiment de les accueillir, de les écouter, de les accepter comme ils sont. Et au final, s'ils sont en demande de conseils et de prise en charge, on va les renvoyer sur des numéros qui sont spécialisés sur la prise en charge de suicidaires, comme le 3114. Qui est une vraie avancée qui existe maintenant depuis presque 2 ans.
Faites-vous un lien entre la hausse d'appels des très jeunes gens et la dégradation du système de santé, notamment psychiatrique, en France aujourd'hui?
On pourrait le faire. Alors honnêtement, comme on n'interroge pas ces jeunes, parce qu'on essaie de leur consacrer tout l'appel, c'est compliqué d'en savoir plus. On pourrait le penser, oui. J'ai aussi le sentiment qu'il y a une libération de la parole, que malgré ce qu'on peut penser avec les réseaux sociaux, avec toutes les messageries électroniques comme WhatsApp, Snapchat, ils ont plein de moyens de communiquer. Et paradoxalement, on communique peut-être plus, mais on se parle beaucoup moins. Et c'est peut-être ça que ressentent les jeunes aussi. Et ils sont peut-être en recherche d'une parole qui ne sera pas notée, qui ne sera pas jugée, qui ne sera pas évaluée, où on les renverra pas avec des clashs, des insultes. Je pense qu'ils sont en recherche de ça, d'acceptation comme ils sont, de leur parole.
Et vous évoquiez un élément important, c'est cette libération de la parole qui a lieu depuis plusieurs années, notamment avec MeToo par exemple. Ces personnes qui se livrent plus facilement.
Oui, mais quand on réfléchit bien, on en parle beaucoup de cette parole libérée, mais il n'y a pas tant que ça de lieu pour qu'elle soit vraiment libérée. Les réseaux sociaux peuvent être d'une violence extrême, hein, quelqu'un qui énonce ses difficultés. Quand on regarde les commentaires sous les posts, on voit beaucoup de moqueries, d'ironie, au mieux, d'insultes. On renvoie les gens à leur impuissance, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Ce qui fait que la parole vraiment acceptée et libérée, il n'y a pas tant de place que ça. Je pense que c'est pour ça que certains nous appellent, parce qu'ils font cette expérience où on les jugera pas. Et en plus, on leur consacrera tout le temps disponible, même si ils savent pas comment faire, puisqu'ils n'ont pas l'habitude d'appeler des services comme les nôtres. C'est pas très grave, on va leur consacrer tout le temps dont ils ont besoin.
L'aspect anonyme, l'écoute, oui. Voilà, oui, l'essentiel qui permet, oui, à ces personnes de, oui, se livrer.
Oui. Même si dans les appels, il y a beaucoup de honte, avec l'anonymat, ils ne seront pas jugés, il n'y aura pas de regard. Oui, tout ça, ça compte. Alors aussi, l'effet 24 heures sur 24, certains jeunes, et notamment au Tchad, on les a très tard le soir ou dans la nuit. Tous ces éléments contribuent à ce qu'on peut les écouter. Quand quelqu'un a une crise, la crise se décide pas, on ne décide pas de l'heure de sa crise. Donc c'est important qu'on soit là aussi à toutes les heures du jour et de la nuit.
Une personne qui vit un véritable mal-être, vous lui conseillez de téléphoner à SOS Amitié ou alors de se diriger plutôt vers un médecin ?
Les deux, bien sûr. La plupart des gens qui nous appellent sont déjà suivis. Ils sont pas trop en recherche de conseils. Maintenant, avec Internet, on les trouve assez facilement. En revanche, ce que certains nous disent, c'est même s'ils sont pris en charge, ils ont le sentiment d'être écoutés, mais pour quelque chose, pour qu'on les soigne, parce qu'ils font une cure, parce qu'ils sont en manque d'une écoute pour rien du tout, uniquement pour eux. Alors c'est vrai que c'est un peu injuste pour les médecins et les psychiatres, parce que dans ces médecins et des psychiatres, ils passent aussi du temps à les écouter en dehors du suivi de dossier ou de la cure. Mais on sent bien que les gens ont aussi besoin d'une présence et pas dans le cadre de quelque chose. On les écoute pour eux et pas pour un dossier, même pour leur bien. Ils veulent être écoutés pour eux, uniquement pour eux.
À quoi sert un tel baromètre et comment l'État peut-il le prendre en compte? Qu'en attendez-vous?
C'est une très très bonne question parce que jusqu'à présent, c'est ce qu'on faisait, on écoutait. On écoutait les gens, on reçoit plus de 600 000 appels par an et on se disait qu'il fallait qu'on en rende compte à la société. Est-ce qu'il y avait plus d'hommes, de femmes, les tranches d'âge, les situations évoquées? Et c'est aussi pour ça qu'on avait créé, il y a presque 15 ans maintenant, ce baromètre. Là, avec la situation actuelle, on se rend compte qu'on doit aller un cran plus loin et que très certainement, il faut qu'on partage ces données avec tous les autres acteurs de la santé sociale, de la prévention du suicide. Parce qu'on constate tous à peu près la même chose, chacun selon son prisme. Donc il faut qu'on se mette en commun. Alors ça a été l'un des objectifs de notre congrès à Montpellier ce week-end, où on a rencontré beaucoup d'autres centres d'écoute, beaucoup d'acteurs de la santé mentale ou de la prévention du suicide, aussi des personnes du secteur pénitentiaire, puisqu'on va ouvrir des lignes pour les détenus en prison. Mais il faut qu'on franchisse ce pas de la publication du baromètre et qu'on se réunisse et qu'on voit ce qu'on peut faire ensemble.
Laurent Leboterve, président de SOS Amitié à Paris et en Ile-de-France, il répondait à François-Xavier de Calonne. Cette édition est terminée, l'invité de Pluriel à 19h et 23h et Samir Lassouède, avocat au barreau du Val d'Oise, référent de la Convention, le mouvement fondé par Bernard Cazeneuve. Merci d'être fidèle à Radio Orient.